Et donc, on va passer maintenant aux questions écrites et aux interpellations, avec d'abord la première question de Madame Gendreau.
Oui, monsieur le maire, merci. Donc, la première, lors des conseils municipaux de septembre et décembre dernier, nous avions déjà posé une question relative à l'opération des bons d'achat commerces locaux. Dans votre première réponse, lors de la séance du conseil de septembre 2022, vous aviez précisé à notre demande que la société Kitties détenait toujours la somme de 265 000 euros non consommée lors de cette opération. Vous nous aviez affirmé que ce capital, qui est de l'argent public, allait être rendu à la commune très rapidement. Rappelons que la prestation de cette société était estimée à 36 000 euros TTC. À cette occasion, vous vous étiez également engagé à nous communiquer un bilan définitif, détaillé et par écrit de cette opération. Lors du conseil municipal de décembre 2022, vous aviez précisé que vous nous communiqueriez ce bilan dès que la société Kitties aurait restitué à la ville ses 265 000 euros. Qu'en est-il à ce jour, alors que cette opération est close depuis maintenant presque 18 mois ? Pouvez-vous nous dire si la société Kitties a effectivement remboursé cette somme à la ville ? Pouvez-vous nous dire quand ce bilan nous sera transmis ?
Monsieur Scheuer, pour la réponse.
Oui, merci, monsieur le maire. Madame Gendreau, je vous remercie pour cette question. Et je dois avouer, vous reconnaître une certaine, au moins une qualité, c'est la constance sur ce sujet. Je dois rappeler également que vous aviez voté contre ce dispositif qui était un dispositif de soutien à nos commerçants locaux en donnant du pouvoir d'achat à nos habitants. Madame, le titre a été mis et il est entre les mains du trésorier public. Je vous remercie.
Merci. La deuxième question, Madame Gendreau.
Oui, donc cette question relative à la PAVIG, les fêtes de Lille auront lieu cette année les 30 juin et 1er juillet. À la suite de votre élection en 2020, vous avez remis en cause le système mis en place par la PAVIG qui consiste à répartir les bénéfices réalisés lors de ces manifestations entre les associations qui contribuent à sa réalisation. Vous avez fait valoir des dispositifs juridiques inadéquats, selon vous, et vous souhaitiez le remplacer par un autre dispositif géré par la commune. Nous n'avons jamais eu de retour sur ce nouveau mode de fonctionnement. Ainsi, nous voudrions savoir comment vous procédez actuellement, puisque selon vous, la PAVIG ne pouvait pas reverser les bénéfices aux associations membres de la PAVIG. Je vous remercie.
Bien, monsieur Fru pour la réponse.
Merci, monsieur le maire. Je vous remercie, madame Gendreau, de l'intérêt que vous portez à l'association à PAVIG. Je suis néanmoins surpris par cette question. Je vous confirme que juridiquement, l'association n'était pas dans une situation appropriée au regard des textes. Les bénéfices dont vous parlez ne peuvent pas être partagés auprès d'autres associations membres, contrairement aux sociétés. Ce principe permet de conserver le caractère non lucratif de la structure associative et sa gestion désintéressée. Madame Gendreau, comment vous dire ? Cela fait partie du béaba de la connaissance du milieu associatif et de son précieux bénévolat. La loi interdit aussi à toute association ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subvention à d'autres associations. Cette action pourrait être qualifiée de subvention en cascade et est aussi totalement interdite. Notre volonté est de continuer à accompagner et d'aider les associations membres de la PAVIG et leurs bénévoles qui contribuent depuis de nombreuses années au dynamisme des animations de notre ville. C'est pourquoi nous avons rencontré le président de la PAVIG afin de rechercher des solutions les plus pertinentes pour éviter tout risque juridique. Ensemble, nous nous sommes mis d'accord pour effectuer une démarche progressive. Cette année, à la demande du président de la PAVIG, la ville ne lui versera pas de subvention de fonctionnement, ses fonds propres lui permettant de vivre tranquillement. D'autres étapes sont prévues, notamment lors de l'AG, sans doute de modifier les statuts de la PAVIG, et nous continuerons ainsi, étape par étape, mais rapidement, à régulariser la situation de cette association. En conclusion, je tiens à vous assurer, Madame Gendreau, du soutien plein et entier de la ville auprès des bénévoles et de ses associations. Merci, Monsieur le maire.
Merci, Monsieur Fru. Nous passons ensuite à la question écrite de Madame Longechal.
Alors, sur les... vous avez déjà fourni un certain nombre de réponses, donc je pense que vous pourrez aller un peu plus vite et que si Madame Dreyfus peut éviter de sortir la sulfateuse, ça m'ira très bien. Monsieur le maire, vous avez mis en place au début de votre mandat une plateforme dite de démocratie active par laquelle vous avez souhaité prendre l'avis des îles Kirchoises et des îles Kirchois. Le choix des derniers sujets mis en débat à travers cette plateforme nous interpelle, d'autant que les habitants sont invités à s'exprimer sur des choix très restreints. Le logo de la ville, un choix fermé sur trois propositions d'un intérêt discutable, sans que le choix qui aurait pu être évident, gardons notre logo, ne soit proposé. La circulation aux abords immédiats de l'immeuble Huron, 304 réponses et un choix qui se fait sur le scénario ayant obtenu 4 suffrages de plus. Quel est l'intérêt d'une telle consultation pour un problème technique et local dont les solutions doivent être exploitées et débattues directement avec les personnes concernées? Mais l'objet de notre question concerne essentiellement votre dernière consultation en date sur le nom de l'école Liberman. Donc, voilà, je me répète, puisque je n'avais pas l'ordre du jour du conseil municipal au moment où je vous ai adressé cette question. Vous proposez à nouveau un choix fermé entre 5 propositions, dont 2 sont proprement scandaleuses, comme je l'ai dit, je le répète. André Dur, faut-il vous rappeler que M. Dur est un élu qui a été condamné pour concussion, démis de tous ses mandats, privé de ses droits civiques. Quel bel exemple pour les 350 écoliers que va accueillir cette nouvelle école. Il faut tout de même une sacrée désinvolture par rapport à des valeurs que nous devrions tous partager pour faire une telle proposition. Unsrichul, non, l'école Liberman n'est pas une école alsacienne, c'est une école de la République. Comment voulez-vous que les enfants qui fréquentent cette école, leurs parents et les enseignants, se retrouvent dans un nom alsacien alors même que la plupart d'entre eux n'ont jamais entendu parler l'alsacien? Mais bon, tout ça va changer, bien sûr, à Ilkirch. L'école permettait autrefois aux enfants élevés en alsacien dans leur famille d'apprendre et maîtriser le français comme leurs camarades non dialectophones. Il n'y a plus ou quasiment plus d'enfants ayant l'alsacien comme langue maternelle à Ilkirch. Mais la vocation de l'école de la République reste la même, prioritairement apprendre correctement le français, quelle que soit sa langue maternelle d'origine, qu'il s'agisse de l'alsacien, de l'allemand, du turc ou du chinois. Pouvez-vous donc, monsieur le maire, nous expliquer pourquoi vouloir évincer le général Liberman qui a donné son nom au quartier et sortir de la tradition ilkirchoise qui veut que chaque école porte le nom de son quartier? Mais peut-être souhaitez-vous aussi changer le nom de tout le quartier? Pourquoi le nom d'Adélaïde Oval, a priori retenu par les enfants, n'est-il pas respecté en proposant 5 noms dans lesquels ne figure même pas celle qui était a priori le deuxième choix de l'école, c'est-à-dire Katia Kraft? Vous m'avez répondu là-dessus. Quelles sont les différentes instances à l'origine de ces propositions? Pouvez-vous également nous expliquer ce qui préside au choix des sujets proposés sur Ilkirchois et quelles sont les prochaines thématiques que vous souhaitez aborder par ce biais? Nous avons en effet l'impression de voir des lapins sortir de votre chapeau sur cette plateforme plutôt qu'une politique cohérente permettant d'associer la population. Merci.
Merci, Madame Longchal. Alors, effectivement, on a lancé cette plateforme ilkirchois.eu pour pouvoir disposer d'un outil moderne au service de la démocratie active, qui est un des éléments de la démocratie active, mais qui ne représente pas toute la politique de démocratie active. C'est justement pour pouvoir avoir une plateforme pour des questions qui sont simples, qui sont faciles à répondre et qui ne nécessitent pas forcément toujours de faire des réunions publiques ou autre chose. Par exemple, sur le logo de la ville, on a quand même eu 1054 votants sur le logo de la ville, ce qui est quand même assez intéressant. Et ça faisait suite quand même à un travail qui avait été fait en partenariat avec différents acteurs. Il y avait différents représentants des groupes politiques qui étaient là. Il y avait eu toute une commission de travail. Il y avait une élaboration, un travail avec le graphiste de la ville qui avait fait pas mal de propositions. Et ensuite, on a proposé aux Ilkirchois de trancher en dernier recours le nouveau logo de la ville, qui a été présenté d'ailleurs lors des vœux du maire et qui, pour le coup, n'était pas du tout celui que j'aurais retenu. Donc c'est pour vous dire que je m'y suis habitué depuis, mais c'est vraiment pas celui que j'aurais retenu. Donc je trouve ça intéressant, puisque vous voyez, c'est pas forcément quelque chose que le maire a choisi lui-même. Et je pense que d'ailleurs, autour de la table, dans la majorité municipale, c'était pas forcément celui qui avait le plus de suffrages. Mais comme quoi, ça a porté ses fruits. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu, pour le bâtiment 1922, sur la consultation et la boîte à idées, 789 votants et contributeurs, ce qui nous a permis d'établir un cahier des charges qui permet aujourd'hui d'avoir lancé un appel à projet où nous avons quelques réponses sur le sujet. Donc ça a permis quand même d'orienter les perspectives sur ce sujet-là. 304 participants à la résidence Parc Huron, c'est parce que nous avons décidé de faire quelque chose plutôt de localisé, suite à la réunion publique de présentation du projet devant les habitants, qui avait lieu juste avant l'été et la coupure estivale dernière. Et comme un certain nombre d'habitants n'avaient pas pu se rendre à cette réunion, on avait décidé d'un commun accord avec la salle, puisque ça avait été proposé à la salle, qu'on mette en œuvre cette possibilité, avec une lettre d'information qui avait été produite pour expliquer le sujet aux habitants du secteur Huron et qui les invitait à participer, encore une fois, soit sur la plateforme, soit par le papier, puisqu'à chaque fois, on propose toujours le papier pour pas non plus avoir de fracture numérique et proposer à tous les habitants de pouvoir y participer. Et sur la ZFE, on avait eu quand même 2245 participants qui avaient voté à cette consultation. Donc, c'est quelque chose d'intéressant, mais encore une fois, ce n'est pas toute la politique de démocratie active. Je pense qu'on fait quand même un certain nombre de réunions publiques, mais sur tous les sujets, que ce soit des réunions publiques sur les projets immobiliers, et nous les faisons en amont d'un dépôt de permis de construire, ce qui permet souvent d'avoir des échanges intéressants, de modifier les sujets, les projets, de les réduire, d'augmenter le nombre de places de stationnement, de retravailler les espaces verts, les insertions architecturales, et ça porte quand même ses fruits, parce que ça a porté ses fruits sur pas mal de sujets qui étaient quand même un petit peu compliqués. Il y a toutes les réunions de concertation sur la voirie que nous faisons régulièrement, hein, et sur lesquelles nous présentons aussi les projets avant de les valider auprès de la métropole pour que les habitants puissent se saisir de ces projets. Il y a quand même cette tournée qu'on va démarrer avec les différents barbecues dans les quartiers qui est quand même un très bon moyen de rencontrer tous les habitants. 1200 participants l'année dernière, ce qui a permis de remonter quand même pas mal de doléances aux différents services et de pouvoir les traiter et d'apporter des réponses concrètes aux habitants. Plus le marché municipal, tous les deuxièmes samedis du mois, où l'équipe municipale se rend disponible aussi avec un rendez-vous récurrent pour que les habitants puissent venir nous rencontrer et nous remonter aussi des problématiques qu'on transmet ensuite au service. Donc je pense que là, il y a vraiment une volonté de faire participer les habitants. Je pense que c'est une habitude de participation. J'ai toujours dit que j'étais pas fan du terme de démocratie participative, parce que pour moi, il ne faut pas juste participer, il faut être acteur de sa ville. Et donc démocratie active, c'est être acteur de sa ville, c'est vraiment donner son avis et que son avis soit écouté. Et je pense que depuis le début du mandat, on n'a jamais autant écouté les Îles-Kirchois et l'avis des Îles-Kirchois, puisque bien souvent, les sujets sont délibérés après une enquête, pas forcément comme le maire ou certains de l'équipe municipale auraient souhaité le faire, mais conformément à la volonté des habitants. Parce qu'à un moment, ce n'est pas parce qu'on est élu un jour à une élection municipale qu'il faut croire qu'on sait tout mieux que tout le monde et qu'il ne faut pas redemander l'avis des habitants. Donc c'est ce qu'on fait régulièrement et je trouve que c'est plutôt une bonne méthode. On va continuer à l'amplifier, à la développer, parce que c'est une pratique, ce n'est pas toujours simple, il faut réhabituer les gens. Mais je pense que les habitants, en tout cas, se sont rendus compte quand même que cette démarche fonctionnait et qu'il y avait du résultat. Parce que souvent, en fait, ce qui ne marchait pas avec les démocraties participatives avant, ou dans d'autres circonstances, dans d'autres villes, c'est souvent qu'il y avait une enquête, mais que derrière, tout le monde s'en fichait, et les politiques avaient déjà dessiné tout le sujet, et puis c'était réglé, on n'en parlait plus. Et donc là, on essaye vraiment de rendre les gens acteurs, de leur donner aussi des éléments d'information. Par rapport à la question, je pense qu'on y a largement répondu, mais c'était surtout une volonté quand même de l'équipe enseignante, de l'école, qui a été portée par l'école, qui était portée aussi par les parents d'élèves, qui souhaitaient aussi rebaptiser l'école Liberman, qui trouvaient que c'était intéressant, parce que Madame Dreyfus vous l'a expliqué, beaucoup de dérogations étaient uniquement sur le motif du nom de l'école, et donc de repartir aussi d'une nouvelle base, tout comme d'ailleurs ça avait été fait il n'y a pas très longtemps par le département du Bas-Rhin à l'époque sur le collège Nelson Mandela. On aurait pu le laisser collège des Roseaux, mais il est devenu collège Nelson Mandela. Et la rénovation urbaine du quartier va permettre progressivement aussi de baptiser un certain nombre de nouvelles voiries. Et finalement, la rue du Général Liberman demeurera rue du Général Liberman, mais dans une emprise qui est l'emprise de la voirie publique qu'on connaît aujourd'hui et peut-être un peu moins au cœur du quartier, ce qui d'ailleurs pose beaucoup de soucis aux pompiers pour intervenir ou au SAMU, puisque personne ne sait où se trouvent les bâtiments, puisque tout s'appelle rue du Général Liberman à l'intérieur du quartier. Donc c'est bien ça aussi de faire une vraie tramvière. Et ça, c'était d'ailleurs quelque chose qui avait été déjà acté par la gouvernance précédente et qui est tout à fait judicieux, parce qu'il faut faire une vraie tramvière à l'intérieur du quartier avec des équipements publics en termes de voirie qui soient dans les normes, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas avec la voirie qui appartient au bailleur. Et donc ensuite, les instances, c'est vrai qu'on a réuni régulièrement au début du mandat l'instance qui nous permet de donner des noms de rue, de pouvoir aussi écouter les doléances des habitants qui étaient favorables au fait que André Dur puisse exister dans l'espace public, je l'ai dit, qu'il y ait aussi de l'alsacien, hein, parce que regardez, quand on a choisi Unsrifabrik pour le nom de la rue juste à côté de l'ancienne usine, c'est bien que les gens étaient attachés au fait qu'il y avait un moment une histoire et qu'il fallait pouvoir rendre hommage à cette histoire. Et puis ensuite, quels sont les prochains sujets? Les sujets, en fait, c'est la démarche, c'est en fait un projet, on fait une consultation, donc les prochains projets qu'on va sortir, on fera des consultations. Alors après, il n'y a pas forcément des votes à faire, et donc on ne passe pas toujours par la plateforme ilkirchois.eu, parce qu'on va organiser à la rentrée la concertation sur la végétalisation totale du Forum de Lille. Ça va être plutôt des réunions qu'on pense, par exemple, faire un samedi matin sur le Forum de Lille avec la présence du public, en présentant des planches avec le projet travaillé par nos services et le paysagiste, et puis qu'on puisse un peu réadapter le projet. Mais c'est des sujets où on ne pourrait pas juste faire un vote, parce que ça n'aurait pas de sens. Ça, c'est des sujets où il faut voir, il faut comprendre, et puis il faut pouvoir apporter des observations et qu'on en tienne compte. On va faire la présentation de la nouvelle rue de la Plaine aux habitants du secteur, notamment de la Holo, qui sont concernés, et du quartier autour du Baguerzé, qui sont concernés par ce sujet-là. Enfin, voilà, il y a tous ces sujets. Il y aura une présentation qui se fera du hall des sports dans sa version définitive aussi aux habitants du secteur concerné. Et donc voilà, à chaque fois qu'il y a un projet qui doit sortir, on va continuer à faire cette méthode de la concertation sur la plateforme ou pas sur la plateforme en fonction des opportunités. Mais c'est bien lié à la politique municipale et donc c'est conforme à la politique municipale qui était annoncée dans le programme électoral. Et donc, je vous propose de lire votre interpellation concernant la politique environnementale. Allez-y.
-10, malheureusement, et donc c'est un sujet important, mais bon, on va le faire à 9:50. Monsieur le maire, nous souhaitons vous interpeller aujourd'hui sur vos intentions en matière de politique environnementale pour notre ville. En effet, comme dans bien d'autres domaines, les précédentes mandatures avaient été marquées par une politique environnementale volontariste, ambitieuse et innovante. Bien sûr, les défis restent immenses et doivent être relevés de manière toujours plus urgente alors que tous les indicateurs s'affolent. Réchauffement et dérèglement climatique, pollution de l'air et de l'eau, effondrement de la biodiversité. Nous avons appris par une récente publication Facebook que la ville d'Ilkirch était lauréate du Grand Prix des territoires en transition écologique grâce à sa démarche de charte verte. Mais vous ne communiquez pas sur qui décerne ce prix et sur quels critères il est attribué. C'est dommage, car compte tenu de ce que nous vivons au quotidien à Ilkirch, ce grand prix venu d'on ne sait où ressemble plutôt à du greenwashing. Il faut accélérer et approfondir les politiques environnementales à tout niveau. L'Eurométropole s'inscrit dans cette démarche depuis 2020 avec des actions structurantes, création de l'Agence du climat, actions nombreuses dans le domaine des mobilités et de l'adaptation de la ville au changement climatique, nature en ville, etc. Nous espérions donc que même si dans votre programme, ces questions n'étaient pas portées de manière volontariste, vous pourriez participer à cette politique de l'EMS en la déclinant, voire en amplifiant certaines mesures à Ilkirch. Le ton a cependant rapidement été donné avec votre positionnement résolument opposé à la ZFE, allant même jusqu'à l'organisation d'un coûteux référendum. Faut-il rappeler que nous vivons dans l'agglomération strasbourgeoise avec un air gravement pollué, ce qui a des impacts importants sur la santé de la population. Autre rendez-vous manqué, celui de la charte verte de la ville. Les groupes de travail que vous avez initiés étaient intéressants, dynamiques, ouverts et ont fait de nombreuses propositions. Vous avez utilisé une partie des propositions pour rédiger la charte verte de la ville, publiée en toute hâte en décembre 2021. Mais dans cette charte, curieusement, tout le monde devait prendre des engagements, entreprises, associations, citoyens, tout le monde, sauf la ville elle-même. Cette charte verte s'est donc rapidement révélée être un simple outil de communication, plus qu'un incubateur d'action. Aucun bilan ou point d'étape de la mise en œuvre de cette charte. On peut évoquer aussi le plan climat en cours d'élaboration que nous avons donc examiné ce soir. Les fiches examinées en commission développement durable sont un sympathique catalogue d'actions sans priorité ni échéancier et qui ne vous engage donc toujours pas. Compte tenu des difficultés budgétaires apparues de manière flagrante dans le cadre du DOB présenté début mars et sans ligne directrice, il me paraît donc malheureusement peu probable que ce plan climat aboutisse à autre chose qu'un nouvel affichage de communication. Au-delà de ces grands axes de communication, quel est votre bilan environnemental à mi-mandat ? Il est marqué par un manque global d'ambition, de vision et de dynamique, même si bien sûr quelques actions sont mises en œuvre, mais beaucoup trop ponctuelles. Pour les mobilités, la subvention à l'achat de vélos à assistance électrique est un exemple où le dialogue en commission a permis d'améliorer le dispositif existant. Mais il ne suffit pas d'aider à acheter le vélo si au quotidien on aménage la ville en donnant systématiquement la priorité à la voiture individuelle. Évidemment, vous vantez sur ce thème la mise en place de la navette électrique, qui n'a cependant rien de structurant dans les déplacements urbains, mais dont le coût au kilomètre parcouru participe à la disparition de vos marges budgétaires. Pour la biodiversité, il faut saluer l'achat du fort Hoche-Urich, qui a pu se faire grâce au désengagement de l'armée. Les services techniques de la ville œuvrent aussi au quotidien en faveur de la biodiversité dans l'entretien des espaces verts. Mais rien de structurant en termes de trame verte et bleue dans la dernière modification du PLUI. Quant à la trame noire, elle figure dans le plan climat, mais la décision de début de mandat de supprimer toute extinction nocturne a été évidemment une régression. Sur les déchets, un compost collectif mis en place en 2 ans, 6 au total en 2023. Mais il n'y a pas de budget pour aller au-delà, nous a-t-on dit. Pas de collecte organisée des biodéchets, pas de politique en faveur de la réduction des déchets. Tout de même, après de nombreuses demandes, vous êtes décidé à appliquer la loi en ne distribuant plus de bouteilles d'eau en plastique au conseil municipal. Sur l'énergie, seul le renchérissement des coûts de l'énergie vous a fait élaborer un plan de sobriété, avec notamment l'extinction d'un lampadaire sur 2. Vous prévoyez un vaste plan d'investissement, mais vous n'avez pas pris le temps de travailler au préalable sur le schéma directeur de l'éclairage public annoncé au plan climat. Vous avez convoqué en toute hâte un conseil municipal exceptionnel pour réaffirmer solennellement une position de principe d'opposition à la géothermie en attisant les peurs de nos concitoyens. Il ne s'agit pas de relancer les travaux de manière immédiate, comme vous l'avez laissé entendre dans toute votre communication, mais bien de laisser la possibilité à l'opérateur intervenant sur Ilkirch, dont vous avez vous-même reconnu le sérieux, de poursuivre ses investigations en lien avec les collectivités et les organismes de recherche. Et c'est ainsi que nous arriverons à disposer d'une énergie sûre et décarbonée. Les subventions aux associations dans le champ du développement durable ont été divisées par 2, de 10 200 euros en 2021 à 5 000 euros au budget prévisionnel 2023. On pourrait poursuivre la liste des manques, mais le plus important d'entre eux est certainement l'absence totale de dynamique pour un projet environnemental responsable et cohérent de la ville. Vous aviez créé un outil de mobilisation des forces vives de la commune, la charte verte. Mais force est de constater que 18 mois plus tard, vous n'en avez rien fait, si ce n'est un argument de communication. Aucun projet significatif pouvant entraîner l'adhésion de la population n'émerge pour la deuxième partie du mandat. Ilkirch, sous votre direction, ne se met pas en mouvement pour répondre aux enjeux environnementaux urgents. Bien sûr, ce sont des problèmes complexes où l'action publique pour le bien commun doit être collective, s'inscrire dans le long terme et s'accompagner de pédagogie. Ce ne sont donc pas des sujets qui permettent de faire le buzz permanent. Sans doute est-ce pour cela qu'ils ne sont pas au cœur de vos préoccupations. Pour notre part, nous ne pouvons nous satisfaire d'un grand prix couronnant des intentions, mais non une ambition et des actions. Et nous vous demandons donc tout simplement, une nouvelle fois, d'organiser un débat public, bilan et perspective de la charte verte.
Merci Madame Longchal. Madame Combezil pour la réponse.
Merci. Madame, le hasard fait parfois mal les choses. Vous nous interpellez sur la politique environnementale de la municipalité lors du conseil municipal présentant le plan climat de la ville et soumis ce soir à délibération et qui a été voté. Les planètes ne doivent pas être alignées pour vous, j'en suis vraiment désolée. Alors à ce titre, je ne peux que vous renvoyer à tous nos engagements et actions de notre plan climat, énoncé pour partie tout à l'heure, et son contenu exhaustif que je vous invite à relire. En ce qui concerne la remise du prix décerné à notre commune pour la transition écologique, je vous indique que la ville n'est pas à l'initiative de ce prix et n'y a pas postulé. Nous avons été contactés par les auteurs du prix, qui ont salué et souligné le travail effectué sur la charte verte. Ils ont récompensé notre commune par sondage d'un panel d'habitants. Vous indiquez que nous sommes contre la ZFE. Zone, laissez-moi terminer s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Vous indiquez que nous sommes contre la ZFE. Cela est grotesque. La ZFE, c'est une zone à faible émission, zone à forte exclusion, faudrait-il dire. Nous ne sommes bien sûr pas contre la ZFE, mais contre le calendrier qui a été proposé par l'EMS, sans mesure d'accompagnement et en totale dissonance avec la réalité quotidienne des habitants. Cela revient à exclure des habitants auxquels on ne propose aucune alternative et dont les moyens ne permettent pas de changer de voiture ou de trouver une alternative, notamment des transports en commun. Vous indiquez de la même manière que nous serions contre la géothermie. Encore une fois, cela est grotesque. Je vous cite, nous aurions réaffirmé solennellement une position de principe d'opposition à la géothermie. C'est surréaliste. Nous sommes évidemment pour la géothermie. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une énergie décarbonée, propre, renouvelable. Nous avons uniquement émis l'autre jour, le 13 juin, un vote défavorable à la nouvelle demande posée par ES Géothermie de forer deux nouveaux puits. D'ailleurs, nous nous sommes ralliés à la position de la mission d'évaluation et d'information à laquelle a participé les absents ont tort, M. Freuli notamment. Sans commentaire. La charte verte, ai-je besoin d'y revenir? Elle existe, c'est un instrument au service de la prise de conscience des habitants, j'en parle, on m'en parle régulièrement lors de ma présence au marché, elle n'est pas lettre morte, elle vit toujours. En ce qui concerne la navette électrique maintenant, sa mise en place a été très discutée en commission développement durable. C'est une idée que vous aviez partagée à l'époque. Je rappelle par ailleurs qu'elle n'a pas de vocation économique, et que c'est un geste social auprès notamment de nos aînés qui ne pouvaient plus se déplacer. Alors à ce titre, je vous invite, Madame Longchal ou d'autres de votre équipe, à prendre la navette un samedi matin, par exemple, pendant 2 heures, et à discuter avec les usagers. Ils vous diront leur joie de pouvoir se rendre à nouveau au marché. Pour les composteurs collectifs, nous en avons mis 6 en place au total, après une phase d'essai rue d'Alsace. Aurais-je dû en commander une 20aine et dépenser sans compter les deniers publics? Ce n'est pas notre manière de faire. Pour ce qui concerne les subventions, les montants que vous indiquez sont ceux votés au budget primitif. Mais dans la mesure où les demandes de subventions des associations n'ont jamais excédé 3 à 4 000 euros, nous avons simplement réajusté le montant devant faire l'objet d'un vote au budget primitif. Nous n'avons donc pas diminué les subventions aux associations. C'est encore fou. Alors pour conclure, j'ai la bouteille devant moi, j'ai oublié de parler de la bouteille. Il s'agissait pour nous, dans le protocole sanitaire Covid, de mettre des bouteilles en plastique et de ne pas proposer des bouteilles en verre. Le protocole sanitaire terminé, nous avons remis les bouteilles et non pas à votre demande, c'est simplement dans le respect du protocole sanitaire. Alors pour conclure, je dirais que grâce au travail que nous menons avec l'équipe municipale et la compétence de nos services, dont je remercie l'implication sans faille, nous mettons les moyens financiers à travers le budget et le PPI, ainsi que les moyens humains à la hauteur de l'enjeu environnemental.
Merci Madame Combezil.